VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 20 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta parle des acquis et des perspectives de l'accord pour la paix un an après.
Au Nigeria, retour du président Buhari à Abuja après 2 semaines à Londres pour raison de santé.
En Algérie, le gouvernement revendique de nouveaux succès contre des terroristes présumés dans le sud du pays.
En Irak, des milliers de civils continuent de fuir Fallujah, reprise en grande partie par les forces gouvernementales.
Un nouveau record a été battu dans le monde en 2015 avec 65,3 millions de personnes déracinées, selon le dernier rapport du HCR.
Ici aux États-Unis, Donald Trump se plaint d'un apparent projet de révolte des délégués pour l'empêcher d'obtenir l'investiture à la Convention républicaine. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que les résultats du 7e et dernier match entre Cleveland et Golden State pour le championnat 2016 de la NBA. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la nation pour faire le bilan de l'accord de paix signé le 15 mai 2015 et parachevé il y a un an, le 20 juin 2015. Il a parlé de certains acquis, mais aussi des perspectives. Il y aura, a dit Ibeka, la mise en place des autorités intérimaires, le retour des structures sociales de base et le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. De Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Pendant 20 minutes, le président malien a égrené le chapelet des réalisations faites depuis la signature de l'accord il y a un an. Ibrahim Boubacar Keïta.
Chacun, en effet, à son niveau, a pu constater que tout ne se déroule pas comme prévu. Depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, les obstacles à sa mise en œuvre se sont multipliés. Le parcours qu'on a souhaité le plus paisible possible s'est avéré de plus sinueux et improbable.
Avec la signature de l'accord d'entente, Ibeka espère qu'il y aura l'installation rapide des autorités intérimaires.
Nous procéderons à l'installation des autorités intérimaires en commençant par les régions du nord du Mali. Il en sera de même de l'effectivité du mécanisme opérationnel de coordination avec la participation des mouvements signataires.
Le président de la République du Mali demande l'union sacrée de tous les Maliens autour de la mise en application de l'accord pour la paix.
Malgré les difficultés du moment, j'ai l'intime conviction que le camp de la paix que j'incarne contre vents et marées suit une trajectoire historique. En dépit de nos différences d'appréciation et de nos sensibilités respectives, je voudrais inviter l'ensemble des Maliennes et des Maliens à rejoindre le camp de la paix, à l'élargir, à le renforcer, chacun avec sa perception pour le Mali uni.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivé dimanche à Abuja. Il a annoncé qu'il allait bien après un séjour de 2 semaines à Londres pour raison de santé, a constaté un journaliste de l'AFP. Son porte-parole Femi Adesina a ensuite précisé que le président recommencera à travailler pleinement lundi.
Un journaliste de TV5 Monde placé en garde à vue samedi soir dans le nord du Congo a été libéré hier par les autorités policières locales qui l'ont exhorté à regagner Brazzaville. Joselle Morissin.
Sans motif précis, Alain Chongou et 2 confrères ont été gardés à vue par la police de Beto, localité située à 1000 km au nord-est de Brazzaville, dans la nuit de samedi à dimanche. Pour le ministre congolais de la communication, Thierry Mungala, il s'est agi d'un simple malentendu et les journalistes allaient regagner Brazzaville par avion. L'AFP a joint Alain Chongou, qui a confirmé la nouvelle de sa libération. Cependant, nos passeports et ma caméra ont été confisqués. Les autorités ont promis de les restituer au pied de l'avion devant nous ramener à Brazzaville, a-t-il précisé. Les 3 s'étaient rendus à Beto dans le cadre d'un reportage sur les activités du programme des Nations Unies pour la population à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés ce 20 juin. L'AFP rappelle que depuis 2010, plusieurs vagues de personnes fuyant des conflits en Centrafrique ou en RDC ont trouvé refuge à Beto.
Le gouvernement algérien revendique de nouveaux succès dans ses opérations contre les présumés terroristes opérant dans le sud du pays. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Selon le ministère algérien de la Défense, le bilan des opérations menées dans le sud depuis le 9 juin s'établit aujourd'hui à 17 morts et 4 arrestations parmi les islamistes. De ce nombre, 14 ont été abattus hier dans une région montagneuse située à 80 km de la capitale, Alger. Auparavant, les autorités avaient fait état état de 9 morts. Les soldats algériens ont pu également saisir des armes, munitions et explosifs pendant cette opération. Les islamistes armés sont restés actifs en Algérie depuis le début des années 1990, notamment dans l'est et le sud du pays. En 2005, 97% des Algériens avaient approuvé une charte pour la paix et la réconciliation proposée par le gouvernement. Entrée en vigueur en février 2006, elle était censée ramener la paix. Cependant, rien qu'en cette année 2016, au moins 101 islamistes armés ont été tués, selon un bilan officiel cité par l'AFP.
Le Soudan a convoqué dimanche le chef de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour à la suite d'un rapport de l'ONU recommandant l'extension pour un an du mandat de cette force. Khartoum a intensifié depuis des mois la pression pour que les casques bleus se retirent du Darfour en assurant que cette région ravagée par la guerre est désormais pacifiée, ce dont doutent des diplomates et des experts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, des milliers de civils continuaient de fuir sous un soleil de plomb Fallujah, repris en grande partie par les forces gouvernementales aux djihadistes du groupe État islamique. Les ONG disent faire face désormais à un désastre humanitaire.
Au moins 30 000 personnes ont fui les combats en trois jours, rejoignant les dizaines de milliers déjà déplacés, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, et des milliers d'autres sont toujours bloqués à l'intérieur de la ville, dont des femmes enceintes, des personnes malades, âgées ou handicapées.
Un nouveau record a été battu dans le monde en 2015, avec 65,3 millions de personnes déracinés qui ont dû quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres et des persécutions, annonce le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Depuis 2011, date du début du conflit syrien, ce chiffre ne cesse d'augmenter selon le dernier rapport statistique annuel publié lundi par l'HCR. D'après ce rapport, l'Afrique est la première terre d'accueil devant l'Europe. L'Afrique accueille à elle seule 4,41 millions de réfugiés, plus 20%, qui proviennent essentiellement de cinq pays, Somalie, Soudan du Sud, RDC, Soudan et Centrafrique. L'Europe arrive en deuxième place dans le monde avec 4,39 millions de réfugiés, soit plus 43%.
Présidentielle américaine, Donald Trump, le candidat probable du Parti républicain, se plaint d'un apparent projet de révolte des délégués visant à lui ravir l'investiture lors de la convention du mois prochain à Cleveland. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Certains délégués à la convention qui se tiendra à Cleveland dans l'Ohio souhaitent un changement des règles afin de permettre éventuellement le choix de quelqu'un d'autre pour représenter le Grand Old Party à l'élection du 8 novembre. Le milliardaire, magnat de l'immobilier, qui a battu ses autres candidats républicains au cours des primaires, a fustigé cette idée comme étant absolument insensée. Qui vont-ils choisir ? J'ai vaincu tous mes adversaires, je les ai battus à plate couture, a déclaré Donald Trump devant ses partisans lors d'un meeting électoral ce week-end dans le Nevada. Dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision CBS, le candidat a fait savoir que les législateurs républicains au Congrès qui ont exprimé des doutes ou une opposition catégorique à sa candidature devraient faire leur travail et le laisser briguer la présidence. Mais aux yeux de ses adversaires, il ne représente pas les positions conservatrices traditionnelles et ses commentaires immodérés sur les femmes, les musulmans et les Mexicains font de lui un porte-étendard inacceptable. Donald Trump ne semble pas avoir compris l'ampleur de cette opposition puisqu'il a renchéri hier en exprimant de nouveau son soutien pour le profilage des musulmans vivant aux États-Unis et l'interdiction temporaire d'entrée aux immigrants d'origine musulmane.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent dans cette émission et avant de retrouver Nicolas Pinault pour le journal de l'Euro 2016, parlons basketball NBA. C'est l'information de la nuit, le septième et dernier match de la grande finale a eu lieu la nuit dernière entre Golden State, le champion en titre, et Cleveland. Eh bien, la NBA a un nouveau champion, Cleveland, qui a remporté dimanche, pour la première fois de son histoire, le titre NBA en battant en finale le champion 2015, Golden State. Les Cavaliers et leur star, LeBron James, ont signé la 4e victoire décisive à Oakland lors du match numéro 7, remporté 93-89. Ils se sont imposés 4-3 et sont devenus la première équipe de l'histoire à être sacrée après avoir été menée 3-1. Ce sacre est un triomphe personnel pour LeBron James, âgé de 31 ans, qui compte désormais à son palmarès 3 titres NBA. King James était revenu en 2014 dans sa région natale après 4 saisons et 2 titres NBA avec Miami, offrir ce titre tant attendu depuis l'apparition de Cleveland en NBA en 1970. Comme promis, on retrouve à présent le journal de l'Euro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La France accrochée, mais la France qualifiée.
Oui, un match nul 0-0 hier à Lille face à la Suisse. Grâce à un Paul Pogba étincelant, les Bleus ont touché plusieurs fois la barre et auraient mérité mieux. Compte rendu de ce match de Christian Mpanzu, le correspondant de VOA Afrique en France.
C'est une équipe de France très modifiée qui était alignée à Lille. Didier Deschamps a opéré 5 changements dans son 11 de départ pour affronter la Suisse. Remplaçant face à l'Albanie, Paul Pogba était présent d'entrée. Le milieu de terrain de la Juventus de Turin est le joueur le plus en vue en première période. Très actif, Pogba va même toucher la barre transversale sur une frappe sublime. De quoi faire oublier la petite polémique du supposé bras d'honneur. Les Suisses, qui eux aussi avaient besoin d'une victoire pour s'assurer la première place du groupe, n'ont pas montré leur meilleure qualité, se procurant très peu d'occasions de but. En seconde période, le sélectionneur français décide de faire entrer Dimitri Payet. Le héros des 2 premiers matchs de la France était sur le banc au début du match. Son entrée en jeu dynamise l'attaque française et après Pogba en première période, Payet touche lui aussi la barre transversale grâce à une reprise du pied droit. Les filets n'ont donc pas tremblé, 0-0 score final. L'équipe de France n'a pas totalement convaincu avant son 8e de finale dimanche prochain. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Et ce matin, la France et la Suisse terminent aux 2 premières places de ce groupe et se qualifient pour les 8e de finale. L'Albanie est 3e du groupe avec 3 points après sa victoire 1-0 face à la Roumanie. C'est la première dans une compétition internationale pour les Albanais. Insuffisant néanmoins pour espérer se qualifier au titre de meilleur 3e.
Ce lundi, les matchs du groupe B.
Oui, l'Angleterre n'a besoin que d'un match nul face à la Slovaquie, tandis que la Russie, dernière, doit impérativement battre le Pays de Galles. Les détails avec Chérubin Dorcé.
Les Anglais, leaders de ce groupe B, sont en confiance à Saint-Étienne avant d'affronter la Slovaquie. En cas de victoire, les hommes de Roy Hodgson sont assurés d'être premiers. Le scénario idéal pour les Anglais, qui n'auraient pas besoin de s'intéresser aux résultats de l'autre match. Un match nul suffit à l'Angleterre pour se qualifier, mais pour terminer en tête, il faut que dans le même temps, le Pays de Galles ne gagne pas. Les coéquipiers de Marek Hamšík ont leur destin en main. Avec une victoire, les Slovaques seront qualifiés pour les 8e de finale de championnat d'Europe pour la première fois de leur histoire. En revanche, avec un tout autre résultat, il faudra sortir la calculette, espérer faire partie des meilleurs 3e. Dans le 2e match, le Pays de Galles joue sa place pour le prochain tour contre une équipe de Russie dos au mur. Les Dragons sont à égalité avec les Slovaques dans la lutte pour la 2e place et doivent faire mieux qu'eux pour composter leur ticket pour les 8e de finale. Quant à la Russie, dernière du groupe, rien n'est encore perdu, mais la tâche semble tout de même quasiment impossible avec un seul petit point. À noter que la rencontre entre la Russie et le Pays de Galles à Toulouse rejoint la liste des matchs classés à risque.
Voilà pour ce journal de l'Euro. En bref, la Copa América et le Mexique humiliés.
Oh oui, la Bérésina pour les Mexicains battus, tenez-vous bien, 7-0 par le Chili en quart de finale de la Copa América. Écœurés, les supporters mexicains ont jeté sur la pelouse tout ce qui leur passait par la main. En demi-finale, les Chiliens seront opposés à la Colombie de James Rodriguez, vainqueur du Pérou au tir au but, 4-2. Ils devront toutefois se passer d'Arturo Vidal, suspendu pour cette rencontre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le conseil d'administration du FMI a achevé la cinquième revue au titre de la facilité élargie de crédit et approuvé un décaissement de 26,9 millions de dollars pour le Mali. Cette revue s'est tenue le 8 juin 2016 à Washington. Le FMI confirme ainsi les performances de l'économie malienne. Une performance qui a été possible grâce au climat des affaires, à la mobilisation des ressources, mais qui reste confrontée à des difficultés dans le développement des infrastructures de base, nous dit Kassim Traoré.
Les revues FMI Mali ont pour mission d'évaluer les progrès réalisés, le respect des engagements pris par le Mali. Chaque fois que les engagements sont respectés, il y a un décaissement. Comme cette année, lors de la cinquième revue, Dr Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances du Mali.
La cinquième revue a été conclue de façon positive au mois d'avril. Et c'est ce résultat que nous venons de connaître au mois de juin, le 8 juin, quand le conseil d'administration du FMI s'est réuni pour accepter un certain nombre de projets. Le dossier Mali était là-bas et il a été approuvé. Ils nous ont donné 16 milliards de francs CFA. Notre performance a été reconnue déjà pour la première fois dans l'histoire de notre pays depuis qu'on est sous le programme économique et financier. Le FMI a décidé d'augmenter notre accès à leurs ressources.
Cette année, le Mali a eu 16 milliards grâce à ses performances macroéconomiques. Cela va doubler dans les années à venir. Le Mali, selon son ministre de l'économie et des finances, a eu une croissance en hausse. Une croissance qui prête à discussion selon bon nombre de Maliens.
J'entends parfois même dire que oui, c'est vrai, il y a la croissance, mais la croissance, on ne la mange pas. Mais en fait, la croissance, on la mange. Quand il y a croissance, ça veut dire que la production agricole a augmenté. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Et on a augmenté de 20% la valeur indiciaire. On a augmenté de 100% les allocations familiales. Le salaire minimum au Mali ici, le SMIC, il est aujourd'hui à 35 000 francs CFA, mais il était il n'y a pas longtemps à 28 000. Donc, augmentation de 50%. Donc, tout ça, un pays qui ne connaît pas une croissance assez robuste, durable, ne peut pas réaliser ça.
Une bonne économie, c'est un environnement avec des infrastructures de base qui vont avec. Alors qu'au Mali, l'électricité seulement est un casse-tête pour les Maliens moyens. Dr Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances du Mali.
Les investisseurs peuvent être là, vouloir investir parce qu'on a le bon cadre, un bon climat des affaires, mais l'infrastructure de base même n'est pas là. Les transports, l'énergie, il faut développer les infrastructures de base dans trois secteurs clés. L'énergie, les transports et puis l'agriculture. Le coût même de l'énergie est un facteur qui handicape le développement du secteur privé. L'énergie n'est pas disponible en quantité suffisante, la demande est supérieure à l'offre et quand elle est disponible, elle est trop chère. Donc il faut réfléchir à de l'énergie alternative.
Au Mali, la mobilisation des ressources est basée sur les recettes douanières et fiscales. Si la douane est en train d'aller au-delà des attentes, tel n'est pas le cas au niveau des impôts. Le ministre explique.
Il y a une petite inquiétude sur les impôts, mais nous sommes en train d'y travailler et je pense que arrivé en fin juin, nous aurons réalisé les objectifs de mobilisation des recettes.
Au niveau des impôts, qu'est-ce qu'explique?
Il y a différentes raisons. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui aime payer ses impôts. Un autre élément qui est important, c'est les secteurs qui contribuent au plus en termes de recettes fiscales, donc paiement des impôts, etc. C'est le secteur minier. Et ce secteur-là a connu des difficultés.
Aujourd'hui, l'État malien s'est réjoui du rétablissement de la confiance entre lui et les FMI, mais aussi de la croissance économique, chose qui n'est pas visible pour bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Guinée, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont poussé plusieurs jeunes à se lancer dans les activités de blogueurs. Ils sont très actifs et participent en tant que lanceurs d'alerte à des campagnes numériques. De Conakry, Zakaria Camara.
Pour la soixantaine de blogueurs guinéens, même si l'activité est secondaire, elle s'inscrit dans la promotion de la citoyenneté. Fodesan Kinkouyaté, président de l'association des blogueurs de Guinée, Ablogi.
Nous sommes des journalistes citoyens. En fait, nous, notre credo vraiment, c'est de nous intéresser à tout ce qui n'est pas forcément relié dans les médias classiques. Donc, nous nous intéressons à notre vie, à nous-mêmes d'abord, dans les quartiers, mais aussi à ce qui se passe sur le plan national, tout ce qui est d'ordre politique, tout ce qui est d'ordre social, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est mobilisation citoyenne pour une cause.
Les blogs, fruits des nouvelles technologies de l'information et de la communication, amorcent une ascension, surtout au moment où la presse écrite guinéenne semble prendre l'eau. La Blogui veut s'impliquer dans l'évaluation de la gestion de l'État.
Le projet vise à suivre et à évaluer le niveau de réalisation des promesses qui ont été faites par le président Alpha Condé en période électorale, mais aussi en cours de mandat, ainsi que les promesses faites par son gouvernement en ce moment même. Donc c'est un projet dont l'objectif est justement de donner le pouvoir aux citoyens en les impliquant dans la gouvernance, en les amenant à montrer aux politiques que quand vous faites des promesses, vous devez les tenir, que les politiciens doivent tenir leurs paroles, parce que c'est en cela qu'on peut se développer.
Les blogueurs guinéens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont à l'origine de plusieurs campagnes sur la toile. Aboubakar Franck Camara, membre d'Ablogi.
Et lorsque nous avons remarqué que les Guinéens n'avaient plus droit de prendre des cartes d'identité et que les Guinéens qui vivent en dehors du pays n'avaient pas la possibilité de se procurer des passeports biométriques, notre ONG Ablogi a mené une campagne numérique. On mène des campagnes sur les réseaux sociaux comme les Twitter, Facebook, ainsi de suite, pour mobiliser les gens, pour attirer l'attention des autorités ou bien des parties prenantes.
Début juin, plusieurs web activistes de l'Ablogi avaient mené en vain une campagne avec le hashtag Loi Cyberinsécurité. Mais la loi sur la cybersécurité a été adoptée. Elle prévoit une lourde sanction contre les lanceurs d'alerte. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Des handicapés burundais et congolais ont choisi de vendre de la bière produite à Bujumbura de chaque côté de la frontière entre leurs deux pays. Au lieu de mendier, ces handicapés sur leur tricycle parviennent ainsi à joindre les deux bouts et à s'occuper de leur famille. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunzuza, s'est rendu à cette frontière sans reportage.
Gros camions de transport sur la frontière avec la RDC poussent les quelques handicapés burundais et congolais à se déplacer dans un autre endroit pour l'interview de VOA Afrique. Il est 15h ce jeudi sur la frontière burundo-congolaise qui va vers Uvira au sud Kivu. Elias Kizamavuno, 57 ans, est trafiquant de la bière burundaise depuis 35 ans. Père de 24 enfants, il souligne la difficulté de faire ce métier même s'il parvient à faire vivre sa nombreuse progéniture avec un capital de $200 américains.
Dans le temps, c'était bien passé, mais aujourd'hui, nous travaillons pour seulement survivre 24 ans, enfin que j'ai fait vivre, avec le trafic frontalier, pour ne pas mendier, mais avec ça, et mon tricycle ici, ça me fait vivre.
Au bureau de la police de l'air et des frontières, la chef de poste Eugénie est accueillante. Elle s'indigne hors micro contre les nombreux mendiants burundais qui pullulent dans les petites ruelles de la capitale Bujumbura. L'exemple de ces handicapés qui font le commerce pour vendre des bières burundaises des deux côtés de la frontière devrait servir de modèle, mais Kizamavuno, quinquagénaire, ne demande que la libéralisation du commerce sur les frontières.
Nous demandons de nous laisser libre passage à l'importation parce que nous sommes dans les COSAFA, Congo, Burundi, Rwanda et les 15 pays frontaliers. J'ai une marchandise de $200. Les produits locaux doivent passer librement à la frontière.
Côté de la frontière burundaise, cet autre handicapé estime lui aussi que les taxes à la frontière devaient être supprimées. Aman Yarino, père de 3 enfants, parvient quand même à payer le nécessaire pour sa famille.
Là au Congo, on paye 30 000, 40 000, même 50 000. Les douanes au Congo, maintenant c'est beaucoup. Si au Burundi, on amène Amène les hamsters et boque seulement.
Quand les autorités de la police de l'air et des frontières voulaient fermer les frontières burundaises vers 18h, ce jeune homme a voulu s'exprimer sur le travail combien bénéfique de ces handicapés burundais et congolais. Il ne cache pas sa joie.
Malgré leur infirmité, ils essaient de créer, de travailler. Moi, je vois que c'est un peu encourageant. Il faut que tous ces jeunes-là prennent de l'exemple à ces infirmiers qui se trouvent ici à la frontière.
Beaucoup de personnes handicapées, sans connaître le nombre exact, ont décidé de vivre dans la cité de Gatumba, dans la commune de Mouti, dans Bujumbura Oural, pour pouvoir faire ce métier de trafiquant de bière entre les frontières du Burundi et de la RDC. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Hier, 19 juin, c'était la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Occasion pour notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, d'aller à la rencontre des drépanocytaires togolais qui lui ont raconté leur quotidien.
16% de la population togolaise sont porteurs du gène SS de la drépanocytose, une maladie héréditaire répandue en zone tropicale et dont les premiers signes apparaissent dès le bas âge. La petite Chimène Adjoholonou a fait sa première crise il y a 2 ans.
Je suis en classe de 6e, j'ai 11 ans, je suis drépanocytaire SS. Un jour, j'ai fait une crise. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital. Après, ils m'ont dit que je suis drépanocytaire. Quand ça commence, je sens des douleurs partout, au bras, au pied. Mes parents m'ont dit de ne pas s'allonger sous la pluie.
La mère de Chimène nous raconte comment ses enfants sont devenus drépanocytaires. Témoignage de Emefa Ceci Holonou.
Je savais que je suis AS, mais lors de mon mariage, mon mari n'a pas pu faire l'électrophorèse. On a fait notre première fille et déjà à l'âge de 5 ans, on a su qu'elle est drépanocytaire SS. On a 5 enfants, 2 garçons, ils sont AA, une fille AS. Et 2 filles sont SS. Je regrette très fort. Et la grande sœur, elle avait 18 ans. Elle a encore fait une crise. Au mois de juillet de l'année dernière, on a fait 3 jours à l'hôpital et elle est décédée.
Pour éviter des situations que regrette aujourd'hui Mme Ceci Holonou, la vie amoureuse de Komlavi Ama Agbetouho est déterminée par le statut de l'hémoglobine de ses partenaires.
Pour trouver une partenaire, il doit d'abord faire le test. Si elle est porteur de traits, alors là, c'est pas possible. En tout cas, c'est ce que moi, je me suis dit. Elle doit être forcément AA, sinon ça ne passe pas.
La drépanocytose prédispose le malade à des complications et ce n'est pas Kodjo Akakbo qui nous dira le contraire.
Je suis drépanocytaire de forme SC. C'est une maladie qui a été détectée pour moi depuis 1989. Bon, entre-temps, on a diagnostiqué qu'il y a des caillots au niveau de mes membranes optiques là. Donc j'avais débuté un traitement qu'on appelle communément le laser. Et aussi, il y a une autre complication, c'est le développement des nécroses. Au début, c'était au niveau du pied droit, mais après, on l'a encore diagnostiqué au niveau du pied gauche. Et puis, on m'avait découvert aussi la lombalgie. Les douleurs deviennent de plus en plus intenses.
Pour pouvoir gérer des différentes crises douloureuses, les drépanocytaires deviennent dépendants des antalgiques, ce qui inquiète Grace Koudjou du collectif des associations de drépanocytaires.
On sait que les médicaments ont toujours des effets secondaires. Donc pour nous, c'est comme si on traite un mal et pour créer un autre mal, on développe aussi une accoutumance.
La drépanocytose n'est pas curable et pour accompagner les malades, le corps médical mise beaucoup sur les conseils. Docteur Yao Laiban, biologiste au centre de prise en charge des drépanocytaires au CHU de Lomé.
Le premier traitement, c'est les conseils qu'on donne aux patients. C'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire ne pas se donner des occasions de faire une infection et particulièrement dormir aussi sous moustiquaire imprégné d'insecticides pour éviter le paludisme. À type d'anémie, il faut éviter de faire des efforts physiques intenses et prolongés qui vont fatiguer et déshydrater l'organisme. Et on conseille aussi aux drépanocytaires de boire beaucoup d'eau.
Compte tenu du fort taux de prévalence de la maladie au Togo, le collectif des associations de drépanocytaires et les médecins insistent que l'électrophorèse fasse partie des analyses prénuptiales. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.